Commençons par le début. Je voulais commencer avec l'aspect économique de la lettre, titrée d'ailleurs dans la presse ce matin. Agir collectivement pour sauver des vies. Il est titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques et professeur à l'Université de Sherbrooke, M. Luc Godbout. M. Godbout, bonsoir.
Bonsoir, M. Langlois.
Dites-moi, M. Godbout, donc vous avez joint votre nom à cette lettre-là, vous êtes plus de 80 experts de divers secteurs de l'économie. Avez-vous l'impression, et je voulais commencer avec le facteur économique, de refermer pour deux semaines, là, jusqu'à quel point, si vous êtes prêt à la co-signer cette lettre-là, vous pensez que c'est quelque chose qui aura plus de répercussions positives que de négatives sur l'économie?
Ben, tout à fait. On a adhéré à cette lettre-là en toute logique en disant on observe une augmentation du nombre de cas, en fin de semaine on a pu le voir, du nombre d'hospitalisations. À partir du moment où la semaine passée le premier ministre a dit il n'y aura pas de rassemblement, ben là l'idée a cogité de dire ok, mais est-ce que les contraintes additionnelles sont suffisantes pour que le Québec passe à travers cette deuxième vague-là? Et tout semble dire que non. Alors, quand on voit le nombre d'hospitalisations augmenter, on se dit qu'il faut faire quelque chose. Le système de santé, il faut essayer d'y atténuer tous les impacts possibles, là, tu sais, pour que le système puisse, pour le protéger, dans le fond. C'est ça qu'il faut comprendre. Et puis là, on s'est dit, ben tant qu'à ne pas avoir de rassemblement dans le temps des fêtes, pourquoi pas faire un tour de roue de plus et ben, s'auto-confiner dans le temps des fêtes. Donc, la lettre s'adresse d'une part aux gens pour dire collectivement, vous pouvez agir. Puis la lettre, d'autre part, donne un appui au gouvernement s'il y avait une volonté d'aller dans ce sens-là, parce que les impacts sur l'économie vont être beaucoup moindres si on fait ça dans le temps des fêtes que si on attend et qu'on fait ça plus tard, avec plus de force, quelque part à la mi-janvier, fin janvier, début février, là. Donc, c'est pour ça qu'on essaie, c'est pour ça qu'on lance cette proposition-là aujourd'hui, qui a eu quand même pas mal d'écho, là.
Et juste après l'entretien que nous réalisons ensemble, je vais m'entretenir avec Roxane Borges da Silva, puis on va y aller davantage du côté santé, mais il semble assez évident pour tous les signataires de la lettre que il faudra, à un moment donné, vous pensez que l'évolution de la situation de la COVID va nous obliger à remettre le Québec en pause pour un, deux semaines. C'est écrit dans le ciel. Si c'est pas là, ça va être quelque part janvier, février, selon vous et les experts de la santé avec qui vous avez jasé?
C'est ça notre compréhension. C'est que dans le fond, là, puis Pierre Fortin, hier, il imaginait ça de la manière suivante. Il dit, on a le choix entre le mal et le pire. Ben, quand on a le choix entre le mal et le pire, c'est au moins on peut choisir à quel moment on veut vivre la souffrance, mais la souffrance va être moindre si on vit ça durant la période des fêtes, parce qu'il y a bon nombre de travailleurs qui sont déjà à l'arrêt durant la période des fêtes. Et l'autre élément important, c'est que, et ça, le premier ministre du Québec le dit depuis le début, il veut préserver les jours scolaires des enfants et des adolescents. Et ça tombe bien, durant le temps des fêtes, les jours scolaires, il n'y en a pas. Donc, raison plus pour dire que c'est le bon moment pour se mettre sur pause de manière volontaire ou forcée par le gouvernement et laissons seulement aller les services essentiels. Oui, c'est pas parfait. Oui, ça a des effets négatifs sur l'économie. Mais si on parle en jargon économique, là,
oui.
Le coût de renonciation est moindre si on le fait pendant la période des fêtes que si on le fait du 15 janvier au début février. Là.
Je regardais, je crois que c'est la semaine dernière ou une des dernières éditions d'enquête à Radio-Canada où on faisait un suivi de comment des gens avaient vécu la COVID. Puis, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça coûte à l'économie québécoise. On pourrait même poser la même question à l'échelle canadienne, mais restons concentrés sur le Québec. Une semaine de lockdown, là, une semaine où on arrête tout sauf les services essentiels, là, on peut évaluer ça à combien le coût pour une société de tout arrêter pendant deux semaines ici au Québec?
Ben, c'est énorme. Puis là, c'est ça, on dit qu'il faut le faire pour le Québec, mais dans le fond, le gouvernement fédéral fait beaucoup d'aide au Québec. Donc, si on fait un confinement au Québec, il y a des coûts pour les programmes sociaux qui vont être envoyés par Ottawa. Je peux pas m'avancer sur un chiffre, là. Mais c'est énorme. Puis on l'a vu juste à voir la taille des déficits du gouvernement québécois et du gouvernement fédéral, où on a vu des déficits dans les deux cas les plus gros déficits jamais observés. On parle de 15 milliards du côté de Québec, puis on est à 382 milliards du côté d'Ottawa. C'est des chiffres énormes, mais c'est ce que ça prenait pour soutenir les gens et les entreprises contre la détresse financière. Parce que si on n'avait rien fait, la situation serait encore pire. Encore une fois, on avait le choix entre le mal et le pire, puis le gouvernement a choisi d'agir, là, c'est ça.
Est-ce qu'on a les moyens, puis j'ai déjà la réponse, que je me répondrai moi-même, est-ce qu'on a les moyens d'arrêter un autre deux semaines?
On n'a pas le choix. Ben, si on doit en arriver à arrêter un autre deux semaines, on va y avoir les moyens. Parce qu'on n'a pas le choix de les trouver, ces moyens-là. Puis, encore récemment, le gouvernement fédéral disait, tant et aussi longtemps qu'on est en période de crise sanitaire, vous pouvez compter sur le gouvernement pour appuyer les gens, pour pas laisser tomber personne. Ben, si on doit en arriver là, les programmes qui existent actuellement sont déjà en place, donc on est mieux préparé qu'au 15 mars. Les programmes sont déjà en place pour soutenir les gens en cas de fermeture de l'économie.
Non, par rapport à la fenêtre que vous proposez, c'est sûr qu'il y a pas mal moins de dommages à anticiper, là, outre les commerces qui seraient ouverts pendant cette période des fêtes, les derniers achats, etc., parce qu'effectivement, je ne sais pas quelle est la proportion du Québec qui s'arrête pour la pause de Noël, ce n'est pas tout le monde, mais juste au niveau scolaire, c'est ça qui nous guide. C'est sûr que ça attire l'attention. Mais vous avez probablement regardé, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le résumé, à tout le moins, du point de presse du ministre de la Santé, M. Dubé, cet après-midi. Je n'ai pas senti que, bien, ils ne sont pas obligés de le faire aujourd'hui non plus, là, mais que c'est une avenue qu'ils avaient envie d'emprunter. Puis je sentais les pensées lui défiler dans la tête puis calculer le coût d'arrêter l'économie. C'est pour ça que je vous posais la question, parce que c'est une grosse décision aussi de tout mettre en pause. Là.
Mais je peux comprendre le ministre de la Santé, là. Lorsqu'ils vont l'annoncer, ils vont l'annoncer. Il ne peut pas dire oui, on y réfléchit. Imaginez s'il avait dit aujourd'hui, on pense à ça, on n'est pas trop sûr, on va voir comment ça l'avance. La situation journalistique où, tu sais, on aurait mis le Québec en grosse discussion, peut-être involontaire. Nous, on l'a mis sur une base un peu plus volontaire, puis je crois que les décisions gouvernementales se prendront plus tard, et lorsqu'elles seront prises, ils l'annonceront pas d'avance, là, mais on va pouvoir le voir en regardant l'augmentation des nombres de cas, mais surtout du nombre d'hospitalisations. Je crois que pour le ministre de la Santé, son indicateur, ça va être vraiment comment le système de santé peut être protégé, parce que on ne sait jamais tout ce qui peut arriver plus tard. Là. Donc, il faut toujours que le système soit en mesure de répondre, entre guillemets, à la demande là, de soins de santé.
Bien, Monsieur Godbout, un gros merci. Et vous serez peut-être curieux, quoique vous connaissez bien le fond de sa pensée, d'entendre votre collègue Roxane Borges da Silva, que nous allons interroger après la pause. Merci beaucoup de votre participation. Parfait. Ce soir, Monsieur Godbout.
Merci beaucoup à vous. Au revoir.
Au revoir.